Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Chères auditrices, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Comment mieux répartir les quotas de desserte de l'énergie électrique en RDC? Nous en parlons avec nos deux invités. Il s'agit d'Emmanuel Moussouyou, il est coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Monsieur Emmanuel, bonjour.
Bonjour Monsieur Tati.
Merci d'avoir répondu à l'invitation des Radio Capi. Deuxième invité, c'est Maître Eric Kasongo. Il est, on l'aura, on me signale qu'il n'est pas en ligne, on va tenter de les relancer. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-99-41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions au numéro 099-706-99-41. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Monsieur Kalabia qui nous écrit depuis la ville de Bounia en Ituri. Il nous dit ceci: pour mieux répartir le côté énergétique en RDC, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance dans ce secteur. Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiocapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Grâce à Mvezolo Cordon, réalise cette émission et Polydor Basunga s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce magazine de Fête Société de Radio Capi.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. À Kinshasa, le réseau Mwangaza a organisé un séminaire atelier axé sur les taux de répartition de l'énergie électrique dans le cadre des différents projets développés en RDC afin d'augmenter les taux d'accès du courant électrique hier jeudi ici à Kinshasa. Les rapports de cette organisation de la société civile démontrent à suffisance que la RDC est parmi les pays africains qui a un faible taux de couverture du courant électrique malgré la présence des entreprises de production du courant de l'énergie électrique dans certaines régions du pays. Un autre constat, de nombreux ménages victimes d'expropriation sur certains sites où l'on a érigé des centrales, des micro-centrales hydroélectriques n'ont pas été indemnisées comme il se doit selon les acteurs de la société civile. Comment alors mieux répartir les quotas de desserte du courant électrique en RDC? Nous en parlons dans cette première tranche d'Okapi Service avec nos deux invités. Le premier, il est déjà en ligne, il s'agit de M. Emmanuel Moussouyou. Nous rappelons qu'il est coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Monsieur Emmanuel, dites-nous, qu'est-ce qui vous avait motivé à mener cette enquête concernant les taux de répartition de la desserte électrique en RDC?
Alors, bon, encore une fois de plus, bonjour Monsieur Tati et surtout à tous les auditeurs qui nous suivent de partout en RDC. Et donc, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de répondre positivement à votre invitation telle que vous l'avez lancée, pour qu'on parle de ces sujets importants. Je pense que c'est pas la première fois n'est-ce pas, qu'on soit invité par vous pour parler de cette problématique vitale en ce qui concerne l'accès pour tous à l'électricité. Parce que, comme vous le savez, accéder à l'électricité, cela permettra le pays à booster son développement. Parce que sans énergie, on n'a pas de développement non plus. Et donc, on ne cessera jamais de le dire que le pays a une potentialité énorme. Et cela, c'est en rapport avec presque toutes les sources d'énergie renouvelables, l'hydroélectricité, les solaires et autres. Mais que ce potentiel ne bénéficie pas forcément à la population parce que nous demeurons en fait dans le noir. Si vous passez, vous circulez déjà ici à Kinshasa, c'est des délestages aggravés, la population est dans le noir. Et qu'en est-il alors de toutes les autres provinces où les taux d'électrification est à moins d'1%? Donc la situation est tellement chaotique et donc nous avons réfléchi au niveau du réseau Mwangaza, comme vous l'avez dit, avec toutes les organisations partenaires qui se retrouvent à travers le pays, sur comment est-ce que nous, on contribue à l'amélioration de cette solution. Et donc parmi les propositions que nous mettons sur la table, il y a cette proposition sur le quota. Pourquoi nous en parlons? Nous en parlons parce que, comme déjà... Vous connaissez l'historique, n'est-ce pas, du secteur de l'énergie en RDC, du secteur de l'électricité. Depuis des années, plusieurs centrales ont été construites. Il est question de citer des centrales comme celle de Zongo, des Sanga qui ont été, n'est-ce pas, construites avant 1960. Il y a des centrales comme Inga en 1900, n'est-ce pas, 72. Nous avons des centrales comme Nzil, on sait qu'est dans le Katanga ou le Grand Katanga. Toutes ces centrales, pour ne pas oublier non plus la centrale de Boudana vers les Tours, parce qu'il y a un auditeur qui nous a écrit déjà depuis les Tours.
À partir de Bounia, oui.
Donc, toutes ces centrales, oui, toutes ces centrales ont été construites avec, pour objectif, comment alimenter les industries minière, comment alimenter l'exploitation de ressources minières. C'est ça, en fait, l'objectif. Si on voit l'historique de la production en énergie en RDC, tout ça est parti de l'idée qu'il faut qu'on produise de l'électricité pour la transformation, pour les industriels. Alors, cela a fait en sorte que, à travers le pays, très peu de populations dans tout ce coin ont accès à l'électricité. Alors, aujourd'hui, depuis 2014, la loi a été promulguée, cette loi qui consacre la libéralisation du secteur de l'électricité. C'est la loi portant le secteur de l'électricité qui est opérationnelle ou qui est, n'est-ce pas, à jour depuis 2014. Cette loi-là consacre la libéralisation. Cela veut dire que plusieurs opérateurs doivent venir aujourd'hui pour investir dans le secteur de l'électricité. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est vrai que il y a tout d'abord un problème légal. C'est ça qui nous motive davantage pour qu'il y ait des cadres, qu'on puisse améliorer ce cadre-là en définissant certains textes réglementaires comme celui du quota et celui, n'est-ce pas, en rapport avec les droits des communautés. Nous allons en parler tout à l'heure. Mmh. Et donc, il arrive que plusieurs opérateurs qui arrivent dans le secteur pour investir, ils produisent de l'électricité, mais encore une fois de plus, il se réfère à cette vision ancienne, n'est-ce pas, pour ne desservir que prioritairement les entreprises minières. Et donc, la réflexion ici, c'est de dire, si on produit de l'électricité en RDC, cette électricité doit être bien répartie. Cette électricité doit, d'une part, favoriser, n'est-ce pas, l'accès des ménages à l'électricité, et d'autre, l'accès des industriels, parce que vous savez que, aujourd'hui, dans nos milieux, dans le milieu rural, les communautés ou les populations font de l'exode rural. Ils quittent leur zone parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas d'activité économique. Il n'y a rien du tout qui puisse les encourager à demeurer là. Et la conséquence, c'est que les grandes villes comme Kinshasa sont saturées. Mmh. Par contre, le fait de donner de l'électricité aux ménages présente plusieurs avantages. Entre autres, n'est-ce pas, déjà la réduction de l'exode rural parce qu'il y aura de la lumière. Et au-delà de la lumière, c'est aussi cet avantage, n'est-ce pas, du développement des usages productifs.
Oui, des activités génératrices de revenus, oui.
Économiques, mmh. Des activités économiques à petite échelle, à moyenne, petite échelle, qui permettra justement à tous nos ménages au milieu, dans les milieux ruraux, n'est-ce pas, de développer leur capacité économique et ils seront capables cette fois-là à payer même cette électricité, comme aussi à avoir des ressources suffisantes pour le survie de leur communauté. Et du coup, il y aura des activités, cela sera une très bonne chose. Donc, nous pensons que cette vision ancienne doit changer. Aujourd'hui, quand on produit de l'électricité, il faut que le législateur ou carrément le cadre légal prévoit un texte qui harmonise et qui définit un chiffre bien déterminé qui pourra être un chiffre bien déterminé en termes de quotas, qui pourra être réservé pour les communautés ou pour les populations, n'est-ce pas, chose qui pourra les aider à développer tout ce que nous voulons pour que nos communautés puissent, n'est-ce pas, avoir de l'émulation comme nous le souhaitons. Dans le cas contraire, nous allons demeurer à vivre cette situation de manque d'accès à l'électricité. Et ça sera encore criant.
Monsieur Manuel, nous vous demandons, nous vous prions de rester en ligne. Hein. Maître Eric Kasongo, vous êtes le porte-parole du réseau Mwanganza. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Parlez-nous un peu de ces réseaux et est-ce que vous confirmez que la répartition ou, en termes de d'accessibilité à l'énergie électrique est inéquitable en RDC?
Bonjour monsieur le journaliste. Je suis heureux de vous rejoindre dans cette conversation avec l'ensemble de vos auditeurs. Et merci de nous donner cette opportunité aussi. Très brièvement, le réseau Mwangaza, je pense que ça a déjà été dit, regroupe un certain nombre d'organisations réparties sur plusieurs provinces qui se sont données comme objectif de travailler pour l'amélioration de l'accès à l'électricité des populations et pour identifier les raisons qui empêchent que, malgré les potentiels du pays, et que nous ne puissions toujours pas améliorer le niveau de l'accès des populations à l'électricité. Comme vous le savez, le taux d'accès des populations est très bas et que les grandes villes du pays, pas seulement Kinshasa, sont confrontés à des sérieux problèmes d'accès à l'électricité, avec des coupures intempestives, avec des délestages, avec des zones non couvertes par l'électricité. Vous avez des quartiers entiers qui manquent d'électricité, c'est un phénomène qui augmente l'insécurité, mais qui est aussi un facteur de sous-développement parce que absence d'électricité dit absence d'activité économique, surtout au niveau des PME. On a tendance beaucoup à négliger les petites et moyennes entreprises, mais l'économie d'une nation est cimentée par la solidité de ces PME. Or, les PME ne peuvent pas proliférer dans toutes les zones, dans toutes les contrées, dans tous les territoires, sans un minimum d'accès à l'électricité. Donc voilà pourquoi nous nous battons pour identifier les causes et, comme venait de dire justement mon collègue de la société civile, proposer des solutions idoines. Nous ne sommes pas en train de dire ici qu'il n'y a aucun effort qui est entrepris. C'est vrai que depuis l'initiative de la réforme de 2014, on voit les autorités fournir beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer. Mais dans ces efforts-là, nous essayons d'identifier les failles, et malheureusement, elles sont grandes, elles sont nombreuses, ces failles-là, qui font en fait que nous ratons toujours les décollages pour augmenter les niveaux de consommation par habitant de l'énergie électrique, qui est aussi un indice sérieux qui permet de mesurer les développements dans un pays.
Oui, mais maître, est-ce que vous confirmez que la répartition en termes de dessertes, l'énergie électrique est inéquitable entre les ménages et les industriels?
Au regard des résultats des recherches que nous avons effectuées, je suis effectivement en mesure de dire que cette répartition est équitable. Parce que depuis que le Congo existe, les centrales ont toujours été créées pour faire fonctionner exclusivement les industries, et particulièrement les industries minières. Bon, avec l'évolution, nous avons aujourd'hui une situation qui fait que lorsque vous faites la balance entre le pourcentage de l'énergie qui est orienté vers les commerces et industries et le pourcentage de l'énergie électrique orienté vers les abonnés domestiques et donc les ménages, eh bien, vous avez un déséquilibre. Un déséquilibre qui peut aller des 75% pour les industries à 25% pour les abonnés domestiques, parfois même à 90% pour les industries, pour certaines centrales, et 10% seulement pour... Et c'est une situation qui doit changer, parce que il est important d'établir un rééquilibrage dans la manière de redistribuer le paquet énergétique qui est produit. Si nous avons aujourd'hui atteint 3000 MW de capacité installée, ce qui est encore insignifiant par rapport au nombre de populations, nous sommes plus de 110 millions d'habitants. Mmh. Et donc, 110 millions d'habitants qui se partagent 3000 MW de capacité installée, c'est déjà minime. Maintenant, quand vous entrez dans ces 3000 MW-là, eh bien, l'industrie prend la plus grosse part. Et donc, je vous laisse imaginer le nombre, les millions d'âmes qui sont encore dans le noir à cause de cette situation-là. Donc, c'est bien d'encourager les nouvelles unités de produire de l'énergie électrique à travers plusieurs sources qui existent, solaire, micro-centrale, hydroélectrique et consorts. Mais c'est aussi bien de réfléchir sur le mode de dispatching. Parce qu'il faut pas continuer à répéter ces narratifs qui est faux, que voilà, la population est incapable de payer l'électricité et que voilà, quelqu'un qui investit son argent n'aura pas beaucoup à attendre de la population parce qu'elle n'a pas moyen de payer l'électricité. Si on devait réfléchir comme ça, il n'y aura pas EDC Chikapa, il n'y aurait pas eu Nourou au Nord Kivu, il n'y aurait pas eu Virunga Énergie, ainsi de suite. Donc il faut encourager des initiatives de création ou de production de l'énergie électrique, mais qui consacrent un pourcentage important quand même aux populations pour non seulement relever les niveaux d'accès des populations à l'énergie, mais aussi booster l'économie, car comme je l'ai dit précédemment, sans énergie, on ne peut pas encourager des initiatives économiques au niveau de la base. Il faut arrêter cette situation qui veut que, pour être heureux, il faut quitter son terroir pour aller
venir dans une ville. Ouais,
ouais. Alors qu'on peut créer le bonheur autour de soi, là où on vit.
Maître, nous vous gardons en ligne, hein. Monsieur Manuel également, restez en ligne. Dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc là, nous allons partir au standard, hein, pour donner la parole à la première vague des auditeurs. Comment mieux répartir les quotas des dessertes de l'énergie électrique en RDC? C'est le thème que nous sommes en train de débattre dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Je le rappelle, 099-706-9941 et nous allons vous rappeler pour prendre la parole en direct.
Radio Okapi,
Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Le premier auditeur, il intervient de Kinshasa, il s'appelle Laurent. Laurent, bonjour. Monsieur Laurent, vous êtes en ligne? Il est loin de son téléphone, monsieur Laurent? Malheureusement, nous passons au deuxième auditeur. Lui, il est à Bandundouville. Monsieur Malonga, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour Tati. Merci de m'avoir sélectionné pour ce sujet vraiment social et populaire.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Tati, vous voyez que l'invité a dit, selon sa qualification et selon ce que nous, la population, nous jugeons déjà que c'est l'encadrement inutile. Puisque ce que nous subissons sur le terrain, Vous voyez au monde entier, et on étudie ça à l'école, le Inga a une grande puissance d'alimenter même l'Afrique entière. Mais nous, les propriétaires d'Inga, nous sommes comme si nous ne sommes pas dans cette terre. Vous voyez, aujourd'hui, nous nous demandons, presque tous nos voisins profitent de l'énergie d'Inga. Congo-Brazza, Zambie, Angola, et aussi là, Rusizi, là, Rwanda, les voisins là bénéficient de notre énergie électrique, mais la population que nous sommes pauvres. Ici, chez moi, à Bandundu-Ville, Inga arrive ici, et si vous arrivez, pour passer à l'ESNEL, pour demander l'accordement de l'énergie électrique, ça dit, je vous dis que il faut faire des tours et des tours. Et si on vous taxe là-bas, un prix exorbitant, qui chasse même les abonnés, bon, comment est-ce que nous allons bénéficier notre courant propre? Or, si on analyse profondément l'énergie que nous avons, nous, la population de la RDC, nous ne devrions pas vraiment payer même l'énergie électrique. Puisque nous bénéficions beaucoup qui viennent de l'étranger. Mais cet argent, on ne sait pas si ça rentre dans le trésor public ou bien ça passe d'ici au-delà. On les connaît. Bon, l'invité, est-ce qu'il peut nous éclaircir et nous demander comment est-ce que l'énergie d'Inga d'abord, puisqu'il a des micros aussi barrages dans notre Congo, mais je m'intéresse à d'Inga, qui devrait alimenter l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous les propriétaires, nous sommes vraiment sans alimentation efficace. Comment est-ce qu'il peut nous expliquer ce traitement que le directeur général et ses agents font pour que nous, la population, nous soyons vraiment dépourvus de l'énergie? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, ou bien il n'y a pas la politique que la SNL peut initier à faire distribuer d'abord le courant aux abonnés, et après cela, avec le recouvrement, cet argent peut être entré aussi à la société? Ou bien seulement il faut payer cette caution qu'on demande avant, soit $100, soit $250 pour être raccordé. Or, la population est incapable, s'il vous plaît, de réaliser cette condition-là. En tout cas, c'est une plaidoirie que l'invité peut nous expliquer, et vous aussi, vous êtes là, Tati, pour nous aider à commenter pour cela. Pourquoi nous souffrons comme ça? Or, nous sommes suffisamment vraiment équipés de notre énergie à partir d'Inga et d'autres micro-barrages qui existent dans notre pays. Bon, merci beaucoup. Tati.
Merci beaucoup, M. Malunga. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bandundu que vous intervenez. Excellent début de week-end dans cette partie du pays. Nous retournons ici à Kinshasa pour donner la parole à M. Gaston, à qui nous disons bonjour.
Oui, bonjour.
À vous la parole, allez-y, on vous écoute.
Bon, je ne sais pas, mais moi je pense que nous avons une société d'électricité nationale, SNEL, qui fonctionne dans certaines villes.
Oui, mais il y a aussi certains privés qui ont investi dans le secteur.
Oui, parce que le secteur a été libéralisé.
Libéralisé, voilà.
Non seulement libéralisé, même la société a été privatisée. Parce que vous allez un peu être surpris que dans les jours qui viennent, ce sont des particuliers qui vont administrer ou soit gérer la SNEL actuelle.
Oui. Alors, nous sommes en train de tabler, nous voulons savoir comment mieux répartir le quota des dessins d'énergie électrique en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Bon, d'abord, il faut retenir que l'électricité, c'est quelque chose que nous payons en tant que consommateurs. Et si les gens peuvent investir dans ce domaine dans tous les coins, d'ailleurs j'insiste qu'il y a plusieurs coins où il n'y a pas d'électricité, les gens doivent investir dans ce domaine pour donner le courant à la population, parce que la population paye actuellement dans les coins où on a un peu d'électricité, bien que ça vient de manière que nous connaissons là. Mais moi je pense que la répartition que vous faites à l'hygiène sur le plan national devrait partie dans ce sens-là. Donc, il y a la capacité qu'il doit avoir des opérateurs économiques pour servir la population dans ses besoins qui est réel. et puis percevoir cet argent et payer, surtout payer les impôts. Vous savez, la SNEL, si notre SNEL était organisée, elle allait même s'implanter dans d'autres, parce que nous payons le courant. Moi, je me pose même des questions actuellement. Le courant que nous payons, nous n'arrivons pas à comprendre. C'est un courant d'abord qui vient de l'essage, comme on a toujours utilisé le terme. Mais cet argent que nous payons obligatoirement, où on a des injonctions de payer, nous ne savons pas ça part où. Si c'était juste alloué pour le financement de cette structure, je pense que la SNEL devrait s'implanter partout et surtout gérer bonnement. Parce que c'est un service public, l'électricité, tout le monde en a besoin, surtout les ménages. Mais par rapport à la thématique aussi, il faut en parler, parce que je voudrais plus parler des sites où on a déménagé.
Oui, ça c'est le deuxième volet de notre thématique. Donc, vous décriez la qualité de desserte du courant électrique, les services et puis l'irrégularité dans la fourniture de services. Oui. Je pense que nos invités auront le temps de commenter sur votre préoccupation. Merci beaucoup, monsieur Gaston. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Cette fois-ci, nous allons à Kindu, au Maniema, pour donner la parole à monsieur Blaise, à qui on dit bonjour.
Oui, bonjour chers journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Parlez-nous un peu de la situation d'accès à l'électricité dans cette partie du pays, dans les Maniema, où vous habitez.
Bon, je suis tout à fait ravi de partager ce thème avec vous ce matin. Moi, je pense que la situation de l'énergie électrique ici au Maniema est totalement dramatique. Pourquoi? Parce que la province du Maniema semble être considérée comme une province qui est totalement enclavée, et comme vous le savez bien sûr, et non seulement ça, la province du Maniema c'est une province qui ne connaît pas du tout le vrai sens de ce que vous appelez énergie électrique, d'autant plus que si vous entendez parler des barrages de Rutshuruku, c'est un barrage qui semble presque tout simplement demeurer sur les noms et sur le plan des pratiques. Il y a une grande partie de la population qui se limite juste à entendre les noms courants. Mais pour revenir à la thématique de la question, moi je pense que les problèmes ne se situeraient pas tout simplement autour de comment savoir ou comment faire pour que la population soit bénéficiaire de ces courants du secteur énergétique ou des courants électriques. Et les problèmes tournent autour des manques de politique publique par rapport à ce secteur-là. Parce que le secteur énergétique, c'est l'un des secteurs primordiaux et très importants pour le développement économique d'un pays. Grâce au secteur économique, on peut croître même la croissance économique d'un pays. Mais étant donné que dans notre pays, nous avons une très mauvaise politique dans ce sens-là, nous avons une organisation politique, permettez le terme. Je pense que nous pouvons continuer toujours à décrier la mauvaise qualité du secteur électrique et tout part d'abord de l'existence même de ces barrages. Les barrages existent, mais est-ce que ces barrages fonctionnent correctement? Plusieurs de ces barrages sont tout simplement par les noms. Et la population congolaise se limite à voir les courants uniquement par les ampoules ou les câbles électriques. Nous attendons peut-être, parce que nous sommes à la période électorale, pour qu'on vienne nous distraire avec des barrages déjà usés pour dire que voilà, vous serez bénéficiaire des courants électriques.
Merci beaucoup. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu que vous intervenez. Il y a un autre auditeur qui appelle de Kinshasa. Il s'appelle Ramazani. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Allez-y, il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent. On vous donne la parole.
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous accordez de participer et de porter aussi notre voix un peu plus loin. Alors, pour contribuer à cette thématique qui est en train de faire l'ampleur aujourd'hui, bon, moi je dirais tout simplement, c'est un peu déplorable de voir un grand pays comme la RDC avec tous ses barrages, avec tout ce que nous avons comme potentiel, qu'on n'arrive pas à alimenter notre pays. Depuis un temps, nous avons appris que partant de nos barrages, partant de nos ressources, on arrivait à alimenter quelques pays voisins. Mmh. Et il y a même des pays qui exportaient l'énergie ici en RDC. Mais aujourd'hui, quand vous nous parlez par exemple de ménages domestiques qui sont en fait en déséquilibre à un certain niveau et on n'arrive pas à alimenter, c'est un peu déplorable. Mais tout ce que moi je pourrais peut-être proposer comme solution, c'est que il faudrait à un certain niveau privilégier le ménage domestique en faveur en fait des industries, parce que aujourd'hui, si vous prenez par exemple le ménage domestique, leurs voix ne sont pas portées un peu plus haut, mais lorsque vous serez en train de bloquer les...
Malheureusement, la liaison nous a trahi avec Monsieur Ramazani qui intervenait depuis la ville de Kinshasa, mais on a écouté, on a déjà appris les fonds de sa pensée. Monsieur Emmanuel, vous êtes coordonnateur de la CORAP. Dites-nous, comment répondez-vous à Monsieur Malonga de Bandunduville qui a parlé de la cherté liée au raccordement au niveau de la ville de Bandundu?
Non, mais merci beaucoup, Monsieur Tati, et surtout, voilà, j'apprécie les interventions des uns et des autres. Finalement, déjà, la question de Monsieur Malonga sur le Grand Inga, effectivement, c'est une question qui doit se poser. Il a raison d'en parler de cette façon-là, parce que, finalement, tous on connaissait, on a appris que nous avons le plus grand potentiel hydroélectrique au monde, lequel, s'il est développé, n'est-ce pas, on peut alimenter l'Afrique et même plusieurs pays dans le monde, mais pourquoi nous restons dans le noir? Nous restons dans le noir parce que il y a une absence de planification. Parce que il y a une absence de planification au niveau de l'autorité. Et donc, cela n'a pas permis depuis plusieurs années de produire de l'électricité. Parce que pour bénéficier pleinement de Inga, il faut avoir la pleine capacité, alors que déjà Inga aujourd'hui, Inga 1, Inga 2, ne produisent pas plus de, ils n'ont pas une, ont une capacité installée de presque, de plus de 2000 mégawatts, mais la production actuelle est autour de 1500 mégawatts, alors que seule la ville de Kinshasa a un besoin en énergie qui dépasse le 1200 mégawatts, vous pouvez vous imaginer. Alors, qu'est-ce que nous pourrons dire de toutes les provinces où il y a, par exemple, les provinces du Grand Katanga, où il y a le grand besoin, surtout en industrie? Qu'est-ce qu'on va dire de toutes les autres provinces? Donc, le problème, c'est que on ne produit pas assez d'énergie, ce qui fait que les populations en RDC ne peuvent pas bénéficier de cette énergie-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voudrais mentionner ici, c'est que pendant plusieurs années, le pays est resté sur l'idée, n'est-ce pas, ou sur le système d'électrification plutôt centralisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a des systèmes d'électrification, deux types de systèmes d'électrification qu'on peut adopter dans un pays. Il est soit centralisé ou décentralisé. Il est centralisé quand on met beaucoup plus d'efforts, n'est-ce pas, dans la production, dans la construction des grands ouvrages électriques comme Inga, qui a, n'est-ce pas, une possibilité, une capacité installée de plus de 4500 mégawatts, et le gouvernement, le 4500, n'est-ce pas, gigawatts, et donc le gouvernement cherche à produire et à construire cette centrale, laquelle centrale devra desservir l'ensemble du pays. Alors que on ignore que le transport de l'énergie, c'est quelque chose qui coûte trop cher. Alors que le système décentralisé, c'est ce système où on voit dans le Bandundu quelles sont les potentialités énergétiques que regorge la province et comment est-ce qu'on peut exploiter ces potentialités énergétiques pour donner de l'énergie
localement à la population. Okay.
Ce qui veut dire que localement, ce qui veut dire que les populations du Bandundu ne doivent pas attendre que le courant vienne de Inga, mais que le courant est à côté d'eux. Donc c'est ça, au fait, le système le plus adapté. Et c'est comme ça que nous disons, Inga, c'est vrai, on peut attendre comme on veut, mais Inga, c'est pas un projet qui pourra venir soutenir l'électrification du pays de façon directe. Par contre, c'est ce système décentralisé, à travers, n'est-ce pas, un bon cadre légal qui permet à ce que tous ces producteurs d'énergie qui viennent développer des projets puissent aussi privilégier
la participation des ménages ou carrément l'accès des ménages à l'électricité au-delà du fait que ils vont justement mettre l'accent sur les entreprises ou les industriels qui pourront, n'est-ce pas, leur aider à rentrer dans leurs investissements le plus rapidement possible, mais que l'État puisse développer des mécanismes pour aider à ce que les communautés aient accès à l'énergie qui est produite localement, qui est produite à travers des initiatives locales. Voilà un peu ce que je peux donner comme réponse à monsieur pour dire que Inga, on peut attendre 10 000 ans, il pourra ne pas électrifier tout le pays. C'est un grand potentiel, c'est un potentiel plutôt économique, et c'est comme ça que dans la configuration actuelle du projet, on parle de Inga pour l'exportation. Donc quand on va construire Inga, on veut voir l'Afrique du Sud acheter cette énergie, ou carrément, la nouvelle stratégie qui est mise en place, c'est de construire des industries vertes dans le Congo central, à Moanda précisément, où ils vont produire de l'hydrogène qu'ils vont exporter de façon directe pour les pays étrangers. Donc, Inga n'est pas un projet visé pour les communautés, pour la population congolaise, mais c'est un projet qui vise l'extérieur, vise ce caractère plutôt gigantesque. Donc, il ne faut pas espérer que Inga, c'est ça la solution à votre problème pour l'électrification.
Monsieur Emmanuel, restez en ligne. Maître Eric Kasongo, vous êtes porte-parole du réseau Mwanganza. Ensemble, nous avons écouté le témoignage des vives voix de l'auditeur de Kindu qui est totalement dans les noirs. Qu'est-ce que vous dites? Comment réagissez-vous à sa préoccupation?
Je compatis à la situation des habitants de Kindu. Qui ne sont pas les seuls dans cette situation. Je pense que ce soit les amis de Kindu ou encore notre ami Gaston qui a parlé tout à l'heure à partir de Kinshasa ou encore Monsieur Ramazani, tous ont abordé les problèmes
dans le même sens, ouais.
Nous essayons de combattre au niveau du réseau Mwangaza, c'est-à-dire pour prendre l'exemple de notre ami Gaston qui a parlé de la qualité de la fourniture, ça tient à la vétusté des matériels et à l'absence de maintenance des infrastructures existantes. Parce que nous sommes en train de parler des questions énergétiques, il faut savoir que rien qu'avec les infrastructures existantes, si elles étaient toutes réhabilitées et fonctionnaient à pleine capacité, nous aurons déjà résolu une partie du problème. Le problème qu'il y a, c'est que même les infrastructures existantes ne fonctionnent pas à pleine capacité, à 100% de leur capacité. Ça va d'Inga à beaucoup d'autres centrales qui existent, qui ne fournissent pas 100% de leur capacité pour résoudre le problème d'accès à l'énergie. Monsieur de Kindo, quand il parle de la situation dramatique, en fait, il pose le problème de la mauvaise politique énergétique qui existe au pays. Nous avons toujours décrié le fait que les potentiels qui existent au pays peuvent permettre que chaque coin du pays soit autonome d'un point de vue énergétique. L'indépendance énergétique des provinces vient rencontrer ce problème de la décentralisation qu'évoquait M. Emmanuel tout à l'heure. C'est que chaque province peut développer ses propres capacités énergétiques en partant des sources locales et booster l'énergie au niveau local. Et je pense même que c'était la politique coloniale, parce que si vous regardez les centrales qui existaient à l'époque, eh bien ce sont des centrales qui ont été développées, même si c'était pour des besoins industriels, mais quand on parle de Mwadingusha, Mzilonte, que ce sont des centrales qui ont été développées à l'époque, à l'échelle locale. Vous voyez? Et c'est cette politique-là qui n'était pas poursuivie pour s'étendre de manière à faire en sorte que nous puissions avoir chaque province indépendante d'un point de vue énergétique et fournir l'électricité aux populations. Donc nous y sommes encore. Je sais qu'il y a des réflexions pour doter le pays d'une politique nationale énergétique. Il y a aussi des efforts qui sont entrepris pour qu'on arrive à avoir une planification énergétique. Certains le font au niveau, à l'échelle rurale et périurbain, ainsi de suite. Mais nous sommes en train d'attendre que ces efforts produisent les effets escomptés. Mais en attendant, les problèmes soulevés par tous les auditeurs, c'est ça ce que nous avons comme souci actuellement et que nous devons absolument résoudre. Lorsqu'on parle des difficultés de raccordement pour les populations qui sont dans le Congo central, c'est aussi un problème.
Mmh.
Il y avait un récent texte réglementaire qui avait été promulgué, qui fixait les taux de raccordement qui sont très élevés, même pour les abonnés domestiques ou encore commerciaux. Et nous avons dénoncé cela et avons demandé qu'on puisse revoir cette situation. Parce que si vous voulez avoir beaucoup d'abonnés raccordés, eh bien commencez déjà à mettre les montants, les prix nécessaires pour le raccordement, qui soient convenables et surtout à la bourse
oui.
de ceux qui ont besoin.
Au pouvoir d'achat des ménages, oui.
Exactement. Mmh. Donc c'est ça le problème auquel nous sommes confrontés actuellement et pour lequel il faudrait vraiment que l'autorité, à travers les institutions qui sont en charge maintenant des questions d'électrification, donc j'ai cité l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, j'ai cité l'ANSER chargé d'électrification rurale, qui vraiment qu'il continue dans les efforts, parce que comme je l'ai dit précédemment, ces efforts existent, ils sont à l'étape d'initiation, mais ils doivent être boostés de manière à adresser toutes les questions pour qu'on arrête de se plaindre des questions d'accès à l'électricité pour un pays aussi riche en potentiel. Nous sommes la risée de tous les autres pays qui n'ont pas d'argent. Monsieur Malonga a mentionné le fait que nous étions en train de vendre notre électricité à l'Angola, à Zambie, au Congo, Brazza, à côté. Mais laissez-moi vous dire que ce sont des clients que nous sommes en train de perdre parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas dépendre d'un système qui a affiché beaucoup de faiblesses.
Mmh.
Aujourd'hui, l'Angola a construit une centrale et achevé et atteint son autonomie sur le plan énergétique. Le Congo Brazzaville a fait la même chose, ainsi de suite. Alors que nous, avec tout le potentiel que nous avons, tous les sites qu'on a identifiés dans le cadre de l'ACTA sur les énergies renouvelables ou encore les sites qui peuvent abriter des micro-centrales hydroélectriques, eh bien, il n'y a pas assez d'énergie de ce côté-là pour améliorer la quantité de la capacité installée en mégawatts.
Maître, s'il vous plaît, il y a un auditeur qui nous appelle de Kikwit. Hein. On lui donne la parole et puis je reviens à vous. Monsieur Godet, bonjour. Monsieur Godet, vous êtes à Kikwit, bonjour. Malheureusement, il est loin de son téléphone. Oui, allez-y, on vous donne la parole.
Oui.
On vous écoute.
Ok, merci pour la parole. Vraiment, la mathématique du jour, vraiment, est très bien partie. Vraiment, moi, je vous ai déjà dit l'année passée, toujours sur la radio du monde, que la ville de Kikwit est enclavée avec l'énergie. Depuis que Dieu a créé ce monde, nous, les habitants de Kikwit, nous sommes enclavés avec l'énergie. Je ne sais pas c'est dit à quoi. Vraiment, laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste et l'invité qui se trouve dans notre studio, vraiment, notre pays ne bénéficie pas les courants d'Inga. C'est à 40%, les 60%, c'est pour les étrangers. Et cet argent-là n'est pas bien canalisé, monsieur le journaliste. L'argent que les étrangers bénéficient à 60%, ça n'aille donc dans des poches des autorités congolaises. Vraiment, nous, les Congolais, nous souffrons. Laissez-moi vous dire, je vais poser un peu cette question à l'invité.
Allez-y rapidement, on a pris assez de temps, s'il vous plaît, M. Godet. Allez-y rapidement, on vous écoute.
Est-ce qu'on a essayé, ici à la ville de Kikwit, de nous mettre ici la Kakobola? Est-ce que Kakobola, ce sont pour les diasporas américains, les Congolais qui se trouvent là en Amérique, qui a fait ça pour implanter donc les courants de Kakobola, ou c'est le gouvernement congolais? Puisque jusqu'à ça tarde, et d'autres avenues, ça n'a pas encore commencé à alimenter. On a essayé d'avoir encore un groupe au niveau de l'infra, et d'autres avenues ne sont pas implantées. Nous souffrons ici dans la ville de Kikwit. Nous souffrons. Est-ce que c'est le gouvernement congolais ou c'est le diaspora qui a eu le temps dans la ville de Kikwit?
Merci beaucoup, M. Godet. Oui, on est coincé par le temps, excusez-nous. On a écouté les fonds de votre pensée. Hein. Nos invités auront le temps de réagir à votre commentaire à chaud. Maître Eric, un autre problème est celui de la délocalisation des communautés qui vivent à proximité ou aux alentours des sites où l'on développe des micro-centrales hydroélectriques depuis la libéralisation de ce secteur ici en RDC. Nous apprenons que généralement les
l'indemnisation n'est pas à la hauteur de ce qui devait être fait. Quel est le constat que les réseaux Mwangaza a fait sur cet aspect des choses?
Ben, le constat, c'est que on délocalise et il y a beaucoup de mécontentement. Et c'est qu'on donne comme indemnité compensatoire à ce que les communautés perdent ne représente pas la valeur de ce que ils auraient dû bénéficier en temps normal. Pourquoi cela? Parce que cette tâche, cet exercice qui consiste à évaluer et à déterminer les conditions dans lesquelles les communautés sont indemnisées et laisser un peu à l'exclusivité de l'opérateur et de ses représentants. On vous dira que il y a des consultations qui se font, mais les consultations ne se font pas de manière correcte. Il n'y a pas un accompagnement autorisé, si vous voulez, libre des communautés pendant les négociations pour amener à ce que l'indemnisation qui est déterminée soit juste. Vous voyez, une chose c'est de dire nous avons indemnisé, mais on a indemnisé comment après avoir évalué et les pertes avec quels critères? C'est ça le problème que nous décrions. Et pour l'instant, le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a une forme de liberté qui fait que, malgré la volonté du législateur de vouloir qu'il y ait des consultations et qu'il y ait des indemnités qui puissent compenser ceux qui sont déplacés, mais les conditions pratiques de l'exécution, justement, de ces déplacements-là, eh bien, apporte plus d'avantages à l'opérateur qui opère sur le terrain qu'aux communautés. On a cité les exemples de quelques communautés qui venaient récemment d'être déplacées. Officiellement, on vous dira, voilà, ces gens-là ont touché leur argent, mais allez leur demander ce qu'ils ont touché. Est-ce que ça représente une enveloppe qui peut permettre à quelqu'un de reconstruire sa vie, de refaire sa vie et dans les mêmes conditions qu'il était avant, parce qu'il n'est pas seulement question des maisons que l'on perd, mais aussi des activités agricoles que l'on peut perdre, et dans des conditions telles que vous ne pouvez pas le retrouver forcément dans les endroits où vous êtes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plus de 1200 déplacés là-bas, à cause de la centrale de Busanga. Et donc plus de la moitié ne sont pas du tout satisfaits de l'indemnité qui a été offerte. Pourquoi? Faute des critères objectifs et surtout d'absence de suivi de la manière dont les indemnités sont allouées. Voilà pourquoi Mwangaza a proposé justement qu'au regard des dispositions légales qui existent déjà, on puisse formaliser cela à travers l'édiction de mesures claires sur la manière dont il faut adresser cette question d'indemnisation des communautés qui peuvent être déplacées lors de la mise en œuvre des projets de production de l'énergie électrique.
Nous, on est coincé par les temps, Maître Eric Kasongo. On vous dit merci d'avoir été avec nous dans cette première partie du magazine Okapi Service. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Excellente journée.
Merci à vous, monsieur le journaliste.
Monsieur Emmanuel, comment réagissez-vous à la réaction à chaud de monsieur Godet de Kikwit qui a fait allusion au barrage de Kakobo? Là, jusque-là, ils n'ont pas toujours du courant.
Oui, merci beaucoup. On est de cœur avec toute la population de Kikwit qui est complètement dans le noir, mais je pense que Kakobo là était envisagé comme, n'est-ce pas, cette solution qui délivre cette communauté qui vit depuis des décennies dans le noir. Mais malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, quand on a un problème de planification énergétique, rassurez-vous que les résultats ne vont pas suivre. Les résultats qui suivront sont des mauvais résultats. Parce que comment on peut imaginer qu'on planifie de construire une centrale et on ignore que cette
on oublie les transports, oui.
d'un réseau
de transport.
Comment est-ce qu'on peut, quand on est vraiment dans la planification? C'est ça, au fait, le plus grand défaut de Kakobo, là. Parce que récemment, on avait même appris que, on avait fait tourner quelques machines, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Mais comment comment ça fonctionnerait dans ces conditions-là. Donc, c'est comme ça que nous encourageons davantage les autorités à mettre en avant-plan la question de la planification énergétique, au-delà du fait qu'il faut finaliser la politique nationale énergétique. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, qui concerne les populations de Kipwiti, et bien au-delà, n'est-ce pas toutes les populations en RDC, c'est que l'actuelle loi que nous mentionnons tout le temps, au-delà de la libéralisation du secteur, permet ou carrément consacre la notion de la décentralisation énergétique. Ça veut dire, aujourd'hui, le gouverneur de la province, de nos provinces, n'est-ce pas, au-delà des gouverneurs, les autorités dans les entités territoriales décentralisées, la loi leur donne le pouvoir de manager le développement du secteur de l'électricité. Ça veut dire, ils peuvent initier des projets, ils peuvent, n'est-ce pas, trouver des partenaires pour financer des projets d'électrification de leur communauté. Cela doit être noté comme tel. C'est que tout le monde aujourd'hui, ou toutes ces autorités au niveau national, au niveau des provinces et des entités territoriales, sont responsables pour le développement du secteur. Ils doivent comprendre comment fonctionne le secteur, ils doivent comprendre la loi, ils doivent aussi intégrer des notions managériales pour démontrer la nécessité ou carrément le vrai besoin de développement énergétique dans leur province. Parce que malheureusement, vous savez pourquoi les développeurs ne vont pas dans certains coins. Parce que en même temps, le constat peut être fait que beaucoup plus les développeurs vont dans des coins comme le Nord Kivu, le Katanga.
Le Katanga, parce qu'il y a des miniers.
Il y a un pouvoir d'achat.
D'achat, oui.
Ils estiment que une fois ils investissent dans ce coin-là, ils pourront rentrer dans leurs investissements très rapidement.
Oui.
Et pas dans les autres coins comme Kikwiti. Mais je pense que ici, aujourd'hui, les autorités de Kikwiti doivent comprendre que c'est à leur charge de démontrer que Kikwiti est aussi une zone importante.
Économiquement rentable.
Quelles sont les ressources que nous avons? Oui, quelles sont les ressources que nous avons à Kikwiti que nous pouvons mettre en valeur pour qu'il y ait des investissements énergétiques? Je pense qu'on fait de l'agriculture dans ce coin. Au-delà de l'agriculture, il y a d'autres, n'est-ce pas, richesses qui peuvent être développées ou exploitées parce qu'on a d'électricité et créer des richesses pour que les investisseurs reviennent dans leurs investissements.
Monsieur Emmanuel,
je pense que cette notion de la décentralisation énergétique doit être bien captée et surtout appliquée dorénavant.
Merci beaucoup. Vous plaidez pour la décentralisation énergétique en RDC. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la CORAP. Hein. Merci d'avoir été avec nous et on espère que ce n'est pas la dernière fois que vous répondiez à l'invitation d'Okapi Service.
Non, mais c'est nous qui vous remercions et nous sommes toujours très ouverts pour parler du développement de notre pays. Merci pour l'invitation.